disait que c'était une joie de pouvoir vivre ce culte ensemble, parce que ce que nous allons vivre aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'Évangile nous demande. En fait, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus, et on va voir que ça commence par le baptême, justement, le fait d'être disciple de Jésus. Ce matin, je vous invite à vivre un parcours avec deux hommes qu'on rencontre dans l'Évangile de Jean. Deux hommes qui se trouvent associés ensemble à un moment précis de la vie de Jésus. Et ces deux hommes ont un point commun que nous allons découvrir. Et peut-être que ce point commun est aussi dans votre vie, je ne sais pas. Alors on va ouvrir l'Évangile dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, à partir du verset 38. Et on va s'arrêter d'abord sur le parcours de ces deux hommes et sur les leçons qu'on peut apprendre de ce parcours. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nous sommes après la crucifixion. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc, les deux, le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Deux hommes qu'on rencontre pour le premier, c'est la première fois qu'on le rencontre dans l'Évangile. Pour le deuxième, Nicodème, il y a deux autres passages dans l'Évangile de Jean où il apparaît. On va faire un petit parcours avec ces deux hommes. D'abord, Joseph d'Arimathée. Que peut-on apprendre de lui? D'abord, son nom, Joseph d'Arimathée. Arimathée, ce n'est pas le nom de Joseph, c'est la ville de laquelle il vient. Il est connu comme Joseph, qui est né à Arimathée, comme Jésus. On l'appelle aussi Jésus de Nazareth. Alors ce matin, on va baptiser Alice Dittencourt. Ce n'est pas un nom de noble, c'est juste le nom de la ville d'où elle vient. Dans Marc 15, versets 43 à 46, on apprend plusieurs choses sur ce Joseph d'Arimathée. Le soir venu, au verset 42, le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil des Juifs qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Qui était ce Joseph d'Arimathée? C'est pas n'importe qui. La Bible parle de lui comme un membre éminent du conseil. Le conseil, ça renvoie au Sanhédrin, qui était un tribunal suprême de la nation juive. Le Sanhédrin était composé de chefs de prêtres, d'anciens et de spécialistes de la loi. On peut dire que le Sanhédrin, c'est un peu le conseil constitutionnel pour nous, dans notre pays. Sauf que Ce conseil était une assemblée importante, il y avait 71 membres, et la loi à laquelle il se référait, ce n'était pas une loi civile, c'était la loi de Dieu. La loi de Dieu. Dans Marc 14, 55, on voit que Jésus est passé devant ce conseil. Et c'est ce conseil qui a décidé de la condamnation de Jésus, de la mort de Jésus. Joseph faisait partie de ce conseil. Joseph était un homme de foi qui attendait la venue du royaume de Dieu, il a dit. Que signifie cette expression ? Ça signifie que Joseph n'était pas simplement un juif orthodoxe qui suivait les rites de sa religion, mais il était habité par une véritable attente, une espérance, la venue du royaume de Dieu. La venue du royaume de Dieu, dans la Bible, dans le langage des Juifs, ça veut simplement dire qu'il attendait le Messie, qui était promis, qui était annoncé par les prophètes. Dans Luc 23, on va aller dans un autre évangile, il nous a encore donné plusieurs renseignements sur ce Joseph. Verset 50. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Notez ce qu'il est dit après. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. Joseph faisait partie du conseil des Juifs, mais il ne s'est pas aligné à la décision de ce conseil. Il s'est vraiment dissocié de la décision finale qu'a prise le conseil des Juifs de condamner Jésus. Joseph ne s'est pas encore déclaré ouvertement comme disciple, mais déjà il se dissocie, il se sépare de ce conseil dont il fait partie. Plus encore, c'est lui qui va voir Pilate, le gouverneur romain qui a condamné aussi Jésus, pour offrir à Jésus le tombeau dans lequel il va être placé. Ce faisant, peut-être il ne s'en est pas rendu compte, mais il a accompli une prophétie qui a été prédite sur Jésus 7 siècles avant sa venue par Ésaïe, où Ésaïe a dit au chapitre 53 de son livre, « On a mis, en parlant du Messie, on a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. » C'est le tombeau de Joseph, que Joseph avait réservé pour lui, qu'il a donné pour Jésus. Pourquoi est-ce que je vous parle de Joseph ? Je ne vous le dis pas encore, ce matin. On va voir le deuxième personnage, Nicodème. Comme je l'ai dit, Nicodème apparaît plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Le premier passage où on le trouve, c'est dans le célèbre chapitre 3 de l'évangile, où on apprend que Nicodème était un pharisien, un chef des pharisiens, donc un membre de l'ordre religieux le plus strict parmi les Juifs. Les pharisiens s'attachaient à l'obéissance à la loi dans tous les détails de leur vie. Ils se référaient à ce que la loi de Moïse disait pour tenter d'obéir et de plaire à Dieu. Une nuit, il est venu voir Jésus parce qu'il était intrigué par ce personnage particulier qu'était Jésus. Et Jésus parle de lui comme de l'enseignant d'Israël. À un certain moment, verset 10, il lui dit « Quoi, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ?» Donc Nicodème fait partie aussi de l'élite de la nation juive. C'est une sommité théologique, quelqu'un vers qui on va pour comprendre la Bible dans le peuple juif. Dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, Nicodème apprend de Jésus quelque chose qu'il n'a pas compris. malgré toute son érudition, sa connaissance de la loi de Moïse. Quelque chose qui était vital pour lui et qui est vital aussi pour nous. Jésus lui dit que ce n'est pas par les efforts humains que l'homme peut entrer dans le royaume de Dieu. Rien de ce qui provient de la chair, lui dit Jésus, c'est-à-dire de l'homme naturel, de l'homme avec ses capacités naturelles, de l'homme avec ses talents, ses dons, rien de tout cela n'a le pouvoir de faire entrer Nicodème dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il y ait dans ta vie une opération qui vient de Dieu, du Saint-Esprit. Il faut que ce soit Dieu qui te fasse naître de nouveau pour que tu sois son enfant. Sans quoi tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Dans la discussion que Nicodème a avec Jésus, Jésus lui dit comment cette nouvelle naissance se produit. Elle se produit lorsque tu crois. Jésus lui dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne regarde pas à toi pour essayer d'être juste devant Dieu, c'est ce que dit Jésus à Nicodème. Dieu a donné Jésus, son Fils unique et éternel. Jésus a vécu la vie juste que tu n'arrives pas à vivre, et il est mort pour se charger de toutes tes fautes. Par son sacrifice, tu as accès à la vie éternelle. Il te suffit de croire à cette bonne nouvelle du don de Dieu par Jésus pour ton salut. Nicodème est reparti. Il a retenu sans doute beaucoup de choses de cet entretien nocturne avec Jésus. Au chapitre 7 de l'évangile de Jean, on retrouve Nicodème dans un contexte particulier. La popularité de Jésus grandit, de plus en plus de gens le suivent, et ça gêne l'élite religieuse, parce que les gens commencent à se détacher d'eux pour s'attacher à Jésus. Les chefs des Juifs se demandent, y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits, Jean 7,48. Quelqu'un ose élever la voix et prendre la parole, c'est Nicodème. Il ne prend pas ouvertement encore parti pour Jésus, mais il pose une question. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Nicodème s'oppose à cette condamnation arbitraire et globale contre Jésus. Dans le chapitre qu'on a lu, au chapitre 18, Nicodème va encore plus loin. Comme Joseph d'Arimathée, après la mort de Jésus, il achète 30 kilos de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus, selon la coutume des Juifs, et l'envelopper de bandelettes avec les aromates. Quel est le point commun entre ces deux hommes? Outre le fait qu'ils soient tous les deux des gens qui font partie de l'élite du peuple. Ces deux hommes étaient des disciples secrets de Jésus. Le premier, on l'a lu, était un disciple secret de Jésus. Nicodème est venu, vous l'aurez remarqué, et c'est souligné chaque fois qu'on parle de lui, il est venu de nuit voir Jésus au départ. Il n'avait pas envie que ses collègues le sachent, qu'il s'intéressait à Jésus. Donc il est venu en catimini pour que personne ne le voie. Mais il y avait chez Nicodème des qualités qu'on ne trouvait pas chez les autres. Une humilité, parce qu'il fallait être assez humble, bien qu'on soit reconnu comme une sommité théologique, pour oser poser des questions à ce Jésus-là, qui n'avait pas fait d'école théologique, lui. Un amour de la vérité. Quand il vient vers Jésus, il dit « Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Dans sa sincérité, Nicodème ne pouvait que constater que ce Jésus n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose dans sa vie, quelque chose que Jésus, dont Jésus était capable, qui ne pouvait venir que de Dieu. Il y avait une ouverture d'esprit chez Nicodème qu'il n'y avait pas chez les autres pharisiens. On ne sait pas à quel moment Joseph d'Arimathée est devenu un disciple secret de Jésus. Mais plus les choses ont avancé, plus la position qu'il avait parmi le Sanhédrin était inconfortable. Vint le moment où il devait décider pour qui il prenait position. Soit il condamnait Jésus avec les autres, soit il se dissociait des autres et prenait position pour Jésus. Au moment où la condamnation de Jésus a été prononcée, Joseph a décidé de manifester qu'il n'était pas d'accord et qu'il croyait en cet homme qui se présentait comme le Messie. Combien de disciples secrets avait Jésus? Difficile à dire. Dans Jean 7, qu'on a déjà lu tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a dans la foule beaucoup de dialogues entre les personnes. Il est dit dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare le peuple. Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur cœur, étaient convaincus, en tout cas attirés, impressionnés par les paroles de Jésus, ses actes. Et beaucoup se posaient la question, n'est-ce pas le Messie qui devait venir ? Après la mort de Jésus, vous savez qu'il y a la Pentecôte, le moment où les disciples de Jésus reçoivent le Saint-Esprit. Pierre se lève à Jérusalem pendant cette fête, et là nous voyons 3000 hommes se convertir, se tourner, reconnaître publiquement, 3000 juifs reconnaître Jésus comme le Messie. Certainement parmi ces 3000 juifs, il y en avait beaucoup qui étaient des disciples secrets déjà de Jésus et qui sont devenus des disciples publics de Jésus. Et comment sont-ils devenus disciples publics? Les 3000 se sont fait baptiser. Le témoignage du baptême a scellé leur décision de croire, d'affirmer que Jésus est bien le Messie. C'est une décision que Jésus nous a demandé aussi de prendre et de répéter après eux. Le premier acte public qui manifeste notre appartenance au Christ est le baptême dans la Bible. Et le baptême est toujours cet acte, cet engagement que Jésus nous appelle à vivre pour témoigner effectivement, que nous sommes passés de la mort à la vie, d'une ancienne vie à une nouvelle vie par Jésus. Maintenant, je pose à chacun cette question. Où en es-tu dans ta foi, dans ton cheminement avec Jésus? Es-tu un disciple secret de Jésus? N'osant dire aux autres que tu crois en lui ou même que tu t'intéresses à lui. Où es-tu de ceux qui ont déjà affiché publiquement leur position et proclamé à d'autres que tu crois qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes? C'est le Christ, Jésus. Alors, il se peut qu'il te faille du temps pour arriver à cette conviction, comme il en a fallu pour Nicodème et Joseph. Ils ont dû cheminer. Ils ont dû réfléchir à cette personne qui était Jésus, regarder sa vie, ses actes, examiner l'Écriture pour voir si ce qui est écrit est juste par rapport à ce qui était annoncé. Si tu es dans cette étape d'approche, je t'encourage à poursuivre ton chemin jusqu'à ce que tu aies une conviction certaine par rapport à Jésus. Si tu ne sais pas encore où tu en es, tu peux dire à Dieu, je ne sais pas si c'est Jésus dont j'ai besoin pour ma vie, mais je veux le connaître, le découvrir en lisant l'Évangile. Attire-moi à Jésus s'il est la vérité, mais que je sois sûr de mon choix. Je suis sûr que si tu avances vers Jésus, vers Dieu, avec cette attitude, Dieu va t'éclairer. Il m'a fallu un an entre le moment où j'ai reçu une Bible et le moment où je suis devenu chrétien. Je n'ai pas été dans une église, mais j'ai commencé à lire. Et tout doucement, la parole de Dieu m'a convaincu que Jésus était la vérité. Cependant, s'il y a un temps où nous pouvons nous interroger, il y a un temps aussi où ce n'est plus le moment de tergiverser. Il faut prendre la décision. Quand on en sait assez, quand on en a appris assez sur Jésus, quand on a vu ce qu'il peut faire dans une vie, dans d'autres vies, quand on est touché dans son cœur et sa conscience par la parole de Dieu, alors c'est Dieu qui nous appelle et qui nous dit « Viens, viens à moi, tourne-toi vers Jésus. » Jésus n'est pas simplement une option parmi d'autres ou une opinion parmi d'autres. Il est le seul qui a été annoncé avant sa venue des siècles, avant qu'il ne soit là par les prophètes. Comme Nicodème l'a dit, il a fait des choses et dit des choses que personne n'a faites ni n'a dites avant lui. Qui, à part Jésus, a ressuscité des morts, chassé des démons, calmé la tempête en disant stop au vent et à la mer? Malgré toute l'hostilité que le monde a contre Jésus, Jésus est toujours présent dans l'histoire et continue à transformer des centaines, des milliers de vies. C'est pourquoi il est impossible d'être neutre par rapport à Jésus. Chacun d'entre nous devra se positionner. Et ne pas prendre de décision, c'est décider d'être contre lui et non pas avec lui. Jésus lui-même a démontré qu'on ne peut pas être dans la réserve continuelle. Je vais lire Luc 14, versets 25 à 27. Il est dit « De grandes foules faisaient route avec Jésus, sans doute attirées par ses miracles. Jésus guérissait, multipliait le pain. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. J'aimerais bien voir ça. Mais Jésus n'était pas forcément satisfait de voir de grandes foules faire route avec lui. Jésus n'est pas venu chercher des admirateurs, même enthousiastes, ou des sympathisants. Il est venu faire des disciples. C'est pourquoi, face à cette grande foule, il s'est retourné pour dire à chacun quelles étaient les conditions pour être son disciple. Jésus nous rappelle ici que son appel n'est pas collectif, mais individuel. Si quelqu'un vient à moi, Ça peut être confortable d'être dans une foule et de se dire, bon, je suis avec les autres là, avec Jésus. Je fais partie d'une église même, je viens régulièrement. Mais Jésus t'appelle, toi, si quelqu'un vient à moi. La décision de suivre Jésus, de se soumettre à lui, de soumettre sa vie à Jésus est une décision personnelle. Un mari ne peut pas la prendre pour sa femme, ni un père pour ses enfants. C'est toi dans ton cœur qui décides ce que tu vas faire de ce Jésus. La question de Pilate, qu'allez-vous faire de Jésus? Jésus a renoncé à tout, à sa gloire, à sa condition divine, à son éternité dans le ciel, pour venir vers nous, pour nous racheter. Il est devenu homme semblable à nous. La priorité de Jésus, c'était de nous sauver. C'est pourquoi il demande aussi que dans notre vie, il puisse devenir la priorité. Son amour est extraordinaire, infini, incomparable. C'est pourquoi il nous appelle aussi à lui manifester, et c'est ça être disciple, un amour passionné qui passe au-dessus de tous les autres. Il ne nous dit pas de ne pas aimer nos parents, nos enfants, notre épouse, mais il nous rappelle que ce qu'il a fait pour nous dépasse tout ce qu'un autre peut faire. Il a donné sa vie pour moi, pour vous. Jésus ne nous dit pas qu'être disciple est une chose facile. Il nous parle de la croix qu'il a connue. Et il nous dit que nous devons être prêts à être traités dans ce monde de la même manière que lui a été traité. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Le monde a mis Jésus sur une croix, il l'a rejeté, condamné, déconsidéré. Et Jésus nous dit, si tu veux me suivre, tu dois être prêt à cela. Prêt à être rejeté jusqu'à en mourir, comme je l'ai vécu. C'est cela, porter sa croix. C'est pas simplement avoir quelques petits bobos dans sa vie, c'est être prêt à être mis au rang où Jésus a été mis par ceux qui ne le voulaient pas. Je veux rappeler ici enfin que c'est de manière publique que Jésus a vécu et qu'il est mort pour nous. Il a été condamné publiquement, civilement, par le tribunal juif, religieusement aussi. Il a été traîné publiquement dans les rues de Jérusalem jusqu'au lieu de son exécution. Il a été élevé sur la croix à la vue de tous. Et c'est donc devant tous qu'il a subi la sanction que méritaient nos péchés. C'est pour cette raison qu'il est impossible d'être un disciple de Jésus, un disciple secret de Jésus indéfiniment. L'engagement envers Jésus est comme l'engagement, on peut dire, du mariage. On ne peut pas se marier en catimini, c'est publiquement. On dit oui à l'autre qui nous a aimés et qui nous aime. Et le baptême est ce moment. C'est un peu comme une cérémonie de mariage. On dit à Jésus, oui, je te suis. Jésus nous a donné à ses disciples cet ordre avant de partir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18 à 20. Avant de donner l'occasion à Alice de nous raconter son cheminement et comment elle en est venue à croire à Jésus, à s'abandonner à lui, à croire à la valeur de sa mort, pour ses péchés, pour sa vie. J'aimerais terminer en donnant quatre raisons pour lesquelles Jésus nous demande d'être baptisé. D'abord, le baptême est un acte d'obéissance qui prouve qu'on est d'accord de se soumettre à la volonté de Jésus. Même si Jésus ne nous avait pas donné d'autres explications au sujet du baptême, le simple fait qu'il nous demande d'être baptisé devrait suffire pour qu'on lui obéisse. Comment peut-on appeler Jésus Seigneur et Maître et déjà se défiler face au premier ordre qu'il a donné? Jésus te dit, si tu lui appartiens, témoigne, témoigne que je... Oui, que je suis témoigne du fait que tu es son enfant. Et c'est le baptême qui est le premier pas vers cela. La deuxième chose, c'est que le baptême, comme je l'ai dit, est une prise de position et un engagement public. Il est la réponse publique de notre foi à la mort publique de Jésus pour nos péchés. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Paul lit les deux choses, la foi intérieure et le témoignage oral, la confession de la bouche, du fait que Jésus est mon Seigneur aujourd'hui. La troisième chose, c'est que le baptême est une leçon de choses que Jésus nous a données, nous a laissées, pour comprendre ce que ça veut dire être chrétien, devenir son enfant. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes baptisés dans la mort, nous sommes ensevelis avec Jésus. Vous allez voir tout à l'heure, Alice va être ensevelie dans l'eau. On ne va pas la laisser trop longtemps. Parce que le Christ est ressuscité ensuite. Il s'est relevé de la mort. Le baptême est là pour dire que la vieille Alice... Elle est encore jeune. L'ancienne Alice, tout ce qui était condamnable dans le passé d'Alice est mort avec Jésus. Et Alice peut vivre une vie nouvelle, parce que Jésus vit en elle, par son esprit. C'est une leçon de choses extraordinaires, simples, mais qui nous permet de comprendre l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous. Et puis la quatrième chose que nous montre la Bible par rapport au baptême, c'est que le baptême est un acte d'intégration dans la communauté chrétienne. On va attendre que le téléphone s'arrête. Il est dit « Ceux qui acceptèrent la parole de Jésus lors de la Pentecôte furent baptisés. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » À partir du moment où les premiers disciples sont nés, il y a eu le baptême, puis après ils se sont retrouvés. Ils ont commencé à grandir dans la connaissance de leur foi. Ils ont vécu ensemble. On ne peut faire partie d'une église que si l'on prend position et si l'on est prêt à payer le prix aussi de cette identification avec Jésus. Beaucoup de gens aimeraient faire partie d'une communauté qui les rassemble. La communauté chrétienne exige que l'on puisse passer par le chemin que Jésus nous indique pour en faire partie. L'apôtre Pierre, avant de recevoir tous ces baptisés, leur a dit « Repentez-vous, changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il faut accepter que Jésus mette notre vie en ordre, qu'il change, bouscule nos priorités, et qu'il devienne le véritable Seigneur de notre vie. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. En conclusion, on a vu deux hommes qui n'étaient pas connus tout le long des évangiles, ou très peu, qui sont devenus disciples secrets de Jésus et qui ont dû un jour aussi afficher leur prise de position de façon publique. Je ne sais pas où vous en êtes, depuis combien de temps vous cheminez dans l'approche de Jésus. Mais je voudrais vraiment vous inviter à faire ce pas, à prendre cette décision, de dire maintenant, Seigneur, je veux être à toi. Je sais que tu es la vérité, je sais que tu veux mon bien. Tu es le seul chemin, la seule voie par laquelle on peut arriver à des certitudes par rapport à Dieu. Je veux te confier ma vie. Je suis prêt à renoncer à ce que j'étais pour être à toi et devenir disciple. Rappelons-nous, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Je voudrais prier, puis on va laisser la place à Alice qui va nous donner l'occasion d'entendre son cheminement.